Et vous écoutez France Culture. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse, Arthur Rimbaud. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. D'aucuns se confessent, d'autres épluchent leurs agendas, saucissonnent leurs souvenirs, vous font visiter leurs caves, mais certains ont la belle ambition de faire scintiller leur mémoire, de nous faire apprécier son eau et ses diaprures. Les moirures de leur passé, dont acte avec mémoire, un pont sur les étoiles, en deux mots, de notre ami Jean-Pierre Dionnès, sorti avant-hier aux éditions Hors Collection et signé avec Christophe Killien. Dionnès, sa monstrueuse vitalité, son œuvre en cours, c'est maintenant en ouverture de la 22e saison de Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, évidemment très très heureux de vous retrouver après ces deux mois d'amères ruptures et de difficiles séparations, deux mois pendant lesquels j'espère vous avez eu de mauvais comportements et de mauvais goûts très très sûrs. Mauvais genre, comme chacun le sait, est un jardin à la française où on a le goût de la symétrie. Donc en juin, on terminait la précédente saison avec les mémoires de Jean-Pierre K. Fond, et ben on va ouvrir celle de la nouvelle saison avec les mémoires de Jean-Pierre Dionnès, que je salue.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Dionnès qui n'a pas été invité à cette émission depuis 1998.
C'est bien possible.
Je me souviens, à l'époque, on avait créé une rubrique qui s'appelait « Dans l'enfer des vidéothèques ». C'était avant le DVD, au 19e siècle. Et donc, on avait décidé de faire venir de cinéphiles mauvais genre pour qu'ils nous parlent de leur vidéothèque infernale. Et donc, était venu Jean-Pierre Dionnès, qui nous avait présenté quelques films. Ton film s'appelait « Café Society », je crois, un film...
Oui, qui existe Newsna, en DVD, voilà, heureusement.
Et qui aujourd'hui est en DVD. Et là, ce soir, Jean-Pierre, vous êtes avec nous, non plus pour chroniquer, ce sera pour une autre fois, le plus rapidement possible, on l'espère, mais pour évoquer donc mémoire, en deux mots, un pont sur les étoiles, des mémoires. Alors, dans le livre sont utilisés à peu près tous les termes, souvenir, autobiographie, donc comment on peut caractériser le livre ?
C'est plus précisément. Facile. C'est pas facile, parce que d'abord, ce livre, je voulais pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, je devais en faire un autre. Et après,
et pendant longtemps, c'est la machine à rêver.
C'était
qui
la machine à rêver que je ferai après.
Ben, bien évidemment.
Mais mémoire, je ne voulais pas le faire et j'avais une bonne raison pour ça, mais j'ai découvert en route, c'est que c'est aller fouiller dans le passé. Et fouiller dans le passé, c'est jour impair, très très exaltant, jour pair, totalement déprimant. Mais maintenant, je le revendique parce que, ayant passé le cap des 70 ans, comme disait Graham Greene, après 70, on est en sursis. Mais d'un autre côté, on a assez derrière soi pour faire ses mémoires. Moi, je vois maintenant des gens faire leur mémoire à l'âge de 16 ans. J'en ai vu un récemment. Bon, c'est un peu tôt.
C'est beaucoup, un premier tome.
Oui, beaucoup à 30. Ils n'ont pas encore vécu leur vie. Bon, ça y est, j'ai vécu la mienne. Maintenant, j'en commence une seconde.
Voilà, et donc là, c'est le point sur la précédente.
Voilà, c'est le point sur ma première vie.
Eh bien, ce point, on va le faire en compagnie de Philippe Houillet. Comment va-t-il ?
Bonjour ! Bah, très bien, très bien.
Il a eu une bonne lecture pendant les vacances.
Bah, il a fallu cultiver les mauvais genres.
Et qu'est-ce qu'il a fait d'étonnant pendant ses vacances ?
Pas grand-chose. J'ai regardé la série de notre ami Nicolas Winding Refn.
Oui.
De 13 heures.
13 heures.
Too Old to Die Young.
Très bien.
Et c'est très passionnant. Bon. Parce que... il me semble que ça remet en cause, mais il n'est pas tout seul là-dedans, le fonctionnement de la série. C'est-à-dire que ça se présente comme des séries, mais en fait, c'est des films de 13 heures. Ce qui était déjà The Wire, pour revenir à une conversation qu'avait notre ami Jean-Pierre avec Alain Carazé à l'époque de Destination Série. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas récent, mais il y a quelque chose qui a bougé dans le monde de la série, quoi.
Christophe Beer,
bonjour.
Qu'a-t-il fait et qu'a-t-il lu, lui, pendant ses vacances ?
Je ne sais pas, c'est une question embarrassante. Non, j'étais à l'église.
Nous étions à l'église.
Et oui, avec vous, François, pour le décès de Jean-Pierre Mocky.
Ah, Jean-Pierre.
J'en profite pour le saluer, pour saluer sa mémoire.
Effectivement, nous étions tous les deux avec quelques autres quand même, pour qui représentions France Culture et le mauvais genre. Aux obsèques de Jean-Pierre Mocky, c'était à Saint-Sulpice. Antoine Guillot, lui.
Bonjour François.
Comment va-t-il ?
Ah ben, il va très bien. Il a passé l'été, vous voulez nos lectures d'été?
Alors, ah bah oui, passé, quand même, quand
j'ai passé mon été avec le roman de Louis Fang, la scénariste de bande dessinée que nous avons reçue bien souvent ici, ça s'appelle L'imprudence, ça sort là dans la rentrée littéraire chez Actes Sud, et c'est vraiment, vraiment tout à fait formidable. J'ai passé mes vacances aussi avec Douglas Sirk, puisque nous, pour le premier numéro de Plan Large ce samedi, nous avons consacré l'émission à Douglas Sirk avec Denis Rossano, qui vient de sortir un roman formidable où il raconte comment il a ou aurait rencontré Douglas Sirk au début des années 80 sur les bords du lac de Lugano. Il nous raconte l'histoire incroyable de son fils Klaus Detlef Sirk, jeune premier du cinéma nazi. Et puis avec Jean-Pierre Dionnet, évidemment.
Bien évidemment. Fausto Fazulo, pareil, j'imagine.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai été avec Jean-Pierre Dionnet, évidemment. Et puis une découverte, une expérience même, je ne l'avais jamais faite avant, c'est celle des salles Dolby. Donc, je ne suis pas du tout là pour faire promotion technologique, mais en ce moment, vous pouvez voir Apocalypse Now Final Cut, présenté justement
au Pâté Beaugrenelle.
Et je dois bien dire que cette expérience-là, en tout cas, est particulièrement surprenante et saisissante et vraiment très spectaculaire. C'est une autre manière de voir du cinéma. Les places sont très chères, en revanche. Mais voilà, ça va au-delà du gadget technologique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'immersion qui est mémorable.
Très bien,
et donc pour revoir un film comme ça, où Coppola est revenu au négatif original, ça vaut vraiment le coup.
Philippe Rouillet, d'ailleurs, qui anime un jeu, vous êtes au Gaumont-Alésia.
Au Gaumont-Alésia, tous les mois, mais c'est le genre de ciné-club que j'ai. Alors, faut que vous veniez si vous passez par Paris. Et la prochaine séance, c'est le 10 septembre. Et pour venir jouer avec moi, je recevrai Bertrand Tavernier. On passera à son film « Le juge et l'assassin ». Et nous passerons avant que le film commence. C'est-à-dire que j'organise un jeu avec toute la salle et les gagnants ont droit au champagne après la projection. Voilà, c'est
ça,
genre. Et ben là, voilà, je poserai les questions et Bertrand Tavernier donnera les réponses.
Impeccable, ben, comme vous voyez, l'équipe de Mauvais Genre est de nouveau au rendez-vous à sa quasi-totalité. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais tout le monde sera là dans le mois. L'émission, bien évidemment, sera réalisée, comme toujours, par l'immense Laurent Polleret, l'homme qui nous surprend tous les samedis avec la playlist infernale. Et puis, que serait cette émission sans Céline Duchesnay?
Bonsoir François.
Bonsoir Céline. Je ne vous pose pas la question de savoir ce que vous avez fait de vos vacances.
Non, moi je n'ai lu que des livres sur les champignons, puis j'ai interviewé Fausto Fazulo sur l'art de se transformer en champignon mutant. Mais ce sera une aventure que je vous raconterai plus tard.
Et puis il y a une autre aventure littéraire de Céline Duchesnay qu'on nous racontera plus
oui.
tard.
Ah oui, les sorcières,
les sorcières,
pour le moment restons samedi soir.
Dire à plus, et avant d'ouvrir Mémoire de Jean-Pierre Dionnet, ouvrons notre encyclopédie, et ce jour c'est...
Eh bien c'est consacré à David Noir.
Piaf le chien, une créature issue de la chanteuse Piaf, mais qui serait un petit peu Piaf post-mortem, étant elle-même déjà un petit peu sur le déclin à la fin de sa vie, un déclin très prononcé. Donc ça, c'est pas une moquerie, ça l'est, hein, c'est une moquerie très vacharde, mais pas d'elle. C'est plutôt de l'adoration qu'on peut porter comme ça aux idoles. Bon, c'est une chose qui m'agresse beaucoup. Et donc, j'aime bien son côté morbide à cette Piaf qu'elle avait pour moi. C'est fondamentalement morbide. Et donc, ce côté arthritique, etc. Donc, ce Piaf le chien, voilà, qui sort de sa tombe. J'aime bien travailler avec ce qu'on trouve dans les magasins de farce à trappe. Quasiment après, je fabrique aussi des choses. Je lui colle un petit peu de latex sur le visage, tout ça va très vite, hein. Je vais très vite pour changer le personnage. Elle a des fausses dents comme ça que j'enlève parfois parce que c'est elle qui le dit. Je me fous du monde entier, on pourrait l'entendre. Donc pour moi le collage se fait un peu à tous les niveaux. Elle a une sorte de sonde urinaire depuis quelques temps parce que ça va moins bien forcément. Voilà, sa petite robe noire, une grande croix en bois. Je l'avais pensé au départ traînant son cercueil comme Nosferatu, comme Max Schreck, et puis non, c'est trop lourd. Donc ça lui suffit comme ça, et quelquefois quelques morceaux de Marcel Cerdan qu'elle garde dans des poches, des containers, dans sa culotte. Voilà, on peut la décrire un peu comme ça.
David Noir pratique l'art de la métamorphose, mais pas n'importe laquelle. Lui se situe du côté de Frankenstein, ancêtre assumé et revendiqué, car les personnages à qui il prête vie le temps de ses performances sont faits de briques et de brocs, des assemblages d'éléments disparates, comme cousu, puis rafistolé. D'ailleurs, lorsque David Noir joue, sa loge est présente sur scène, prothèses, accessoires, vêtements, masques, perruques, il n'a qu'à piocher dans ses affaires pour qu'apparaisse en l'espace de quelques minutes une petite bestiole, un singe chantant ou une vieille dame qui perd sa calotte crânienne. Mais à dire vrai, pour prendre aussi la pleine mesure de David Noir, on peut aller sur son site internet, judicieusement sous-titré « Un art qui bande à part » et qui est conçu comme un lieu de performance. Je tombe ainsi sur une vidéo où David Noir est de profil, à quatre pattes, nu, une queue de cheval plantée dans les fesses, le sexe en érection. Il s'agit d'une séance de masturbation filmée au ralenti qui me rappelle alors une des phrases dont David Noir a le secret « L'exhibition est un art véritable et un signe de bonne santé psychique, dont acte. »
Tout le monde s'amuse, j'imagine, aussi, avec le corps. Et que, bah, il se trouve que moi je suis un garçon et que j'ai toujours trouvé ça amusant d'avoir un pénis. C'est curieux, cette chose-là. Mon premier film, là, Les animaux décousus, qui était d'abord sur mon sexe, parce que je voulais savoir qui c'était, le considérait vraiment comme un compagnon particulier. Je ne sais pas comment c'est pour une femme, c'est sûrement différent aussi le rapport à cette intériorité, comme ça, qu'on peut un peu sortir, mais on ne peut pas ne pas jouer avec tout ça, parce que c'est tellement spécial. Nos sexes, et puis ils me sont sympathiques. Je trouve les sexes sympathiques. Je trouve que les lèvres des femmes, ça c'est très, c'est comme une bonne bouille, quoi. On a envie de tirer dessus. Des bonnes joues. Je trouve ça sympathique et je trouve ça apaisant. Et je trouve ça très doux et très enfantin, finalement. Et la sexualité est une chose très enfantine pour moi, quoi. Même quand elle est soi-disant très hard, c'est jamais très hard. C'est simplement, c'est beaucoup de choses, oui. J'avais entendu ou j'avais lu un livre de Ferenczi, qui était un disciple de Freud, qui a une théorie magnifique là-dessus, où il dit que la pénétration, le goût de la pénétration viendrait d'une espèce de mémoire, de souvenir insensé de paléolithique, du poisson qui voudrait sortir et pas vraiment sortir du milieu aqueux, avec tout ce qu'on peut imaginer, et qui voudrait tout le temps retourner en milieu humide, mais pas vraiment. Donc lui, il placerait ça c'est l'évolution, quoi, au stade de l'évolution. Et moi, ça m'avait fasciné à tel point que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. J'avais pris une photo de moi, je regarde mon pénis par en dessous, par exemple, effectivement, ça ressemble par exemple à un poisson, parce que ça a des ouïes avec la forme du gland comme ça. C'est étonnant. Alors tout ça, c'est de la poésie. Pour moi, c'est d'abord de la poésie. Donc après, on a envie de le faire avec des partenaires, avec soi-même, partager ça avec un public, et qu'on arrête de vivre dans un monde où on se dit « Ah oui, mais ceci, mais cela... » Que ça soit... C'est aussi bête pour moi d'en faire des gorges chaudes en disant « Oh là là !» « Oh là là !» que se dire « Oh, ben, on peut pas voir ça, quoi. » C'est aussi bête d'un côté comme de l'autre. Donc pour moi, sortir de la bêtise, ce qui est fondamental, parce que sortir de la bêtise, c'est sortir de la violence non voulue, non désirée. Donc ça va très très loin. Sortir de la bêtise, c'est s'accepter, non seulement s'accepter, mais faire un petit peu mieux que ça, c'est s'y intéresser. C'est aimer ce qu'on est. Et il faut se regarder pour ça. Et il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer sa sexualité. Il faut aimer les corps, enfin, et son corps. Et il y a un gros travail là-dessus, je pense, à faire. Le travail de chacun. Notre réel est fascinant. Mais il est fascinant dans son horreur aussi, dans ce qu'on est et dans ce qu'on a dans la tête. Si un homme politique n'est pas capable de me parler de sa masturbation, je ne peux pas voter pour lui. Parce que comment est-ce qu'il pourrait connaître, s'intéresser à la réalité, ne serait-ce que même s'il a une difficulté à en parler, ou s'il pense que c'est trop ou que, écoutez-moi, ça n'est pas mon histoire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas parler vraiment, faut être sérieux, faut parler avec des vrais gens.
Pour retrouver David Noir, un conseil, allez sur son site internet www.davidnoir.art. Mais vous pouvez aussi le retrouver tous les mois au secret cabaret du scintillant Monsieur K, qui se tient rue Fernand-Léger dans le 20e à Paris. Piaf, le chien vous y attend, ainsi que les autres créatures de David Noir. L'occasion aussi de retrouver un cabaret qui, une fois par mois, propose une soirée pour le moins surprenante. La prochaine date, c'est le vendredi 13 septembre. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette entrée David Noir de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Réaction, messieurs, monsieur Dionnet, réaction au...
Eh bien, ma seule réaction, je trouve ça très 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 bien, mais je sais que ce soir, mes jumelles écoutent et elles vont dire « Papa, tu t'es encore mis dans quoi ? C'est quoi cette histoire ? Ça commence par une histoire de « Oh papa !» Désolé, ce n'est pas moi, c'est Céline, et de plus, je trouve ça très intéressant.
Vive papa. Monsieur Beer,
Je partage l'avis de Jean-Pierre. Enfin, avec en revanche, pas cette mise en garde là. Enfin, c'est. Je pense que tes filles vont être ravies d'entendre plutôt le discours de Monsieur Moire. Effectivement, j'ai du mal à prendre au sérieux les gens qui disent ne jamais se masturber, ou alors je les plains. Donc c'est le message de si vraiment ils disent la vérité, ils sont à plaindre. Donc oui, monsieur Noir ou Moire ?
Monsieur Noir, c'est David Noir.
Monsieur Noir a raison, c'est de faire une sorte de d'hymne à la masturbation.
Voilà, c'est fait, c'est dit. Monsieur Moire a quelque chose à dire sur monsieur Noir ?
Je voudrais quand même rappeler qu'il y a 30 ans, à peu près, ou 40, il y a eu un immense succès français qui était une ode à la masturbation. C'était la chanson de « Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle » et les draps s'en souviennent. Et c'était numéro un au hit parade pendant 6 mois.
Oh, la belle époque. Merci, mon ami Jean-Pierre. Eh bien, l'heure est venue pour nous de nous engager sur ce pont que vous avez jeté sur les étoiles et d'ouvrir les mémoires de Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, de quoi s'agit-il ?
Time has come today. Alors, c'est terrible, c'est un disque que j'écoute à peu près toutes les semaines depuis le début de ma vie. Là, le nom du groupe m'échappe.
Chambers Brothers.
Voilà, c'est ça. Alors, c'était un mélange de noir et de blanc. C'était du psychédélo funk. Et quand il nous a dit Time has come today, un, on dansait dessus. Deux, on savait que ça disait quelque chose. Que c'était notre heure, notre jour, notre période et que le monde allait changer. Time has come today.
Time has come today, les Chambers Brothers, un morceau qui a marqué durablement et qui marque encore tous les jours ou quasiment toutes les semaines la vie de notre invité de ce soir, Jean-Pierre Dionnet, car ce soir Jean-Pierre est notre invité pour ses mémoires qui sortent aux éditions hors collection. Alors c'est un livre fait avec Christophe Killien, c'est un livre entretien qui est devenu un livre de prose, un livre de confession à la première personne. On entend votre voix. Je ne veux pas dire que par moment que je ferme les yeux pour vous entendre, puisque je ne pouvais plus lire le livre. Mais le lisant, je vous entendais parler. Donc on trouve la vocalité Dionnet, qui est une vocalité déjà très littéraire, puisque c'est très écrit, très précis, très fourni sur le plan du vocabulaire, très analytique et très touffu sur le plan des évocations de personnages ou des descriptions. Donc il y a cet aspect de la vocalité, on vous entend. Et en même temps, je parlais des mémoires de Jean-Pierre Calfon, on est un petit peu à l'opposé, au sens où il y a une sorte de volonté de se confronter différemment à la gravité des choses et un peu le dire au tragique de l'existence. Autant Jean-Pierre Calfon est dans une espèce de convivialité permanente, vous êtes plutôt seul face à l'événement. Il y a un côté presque barès, j'ai presque envie de dire, ce qui va surprendre beaucoup les auditeurs et effrayer votre attaché de presse, mais enfin bon, c'est fait, c'est dit. Il y a une volonté comme ça d'être comme ça, une espèce de solitude tragique face à à tout ce que vous avez pu vivre. Comment s'est organisée la chimie qui a abouti au livre? Parce que effectivement, c'est un livre à la première personne, c'est un livre magnétophone et en même temps, c'est un livre écrit.
Alors, ça a été une très très longue odyssée qui commence en septembre 2018, finit sur les chapeaux de roue en mai-juin 2019. En mai, presque fini, et en juin, les ultimes textes. Et alors, je ne savais pas une chose, un généraliste me l'a dit après, c'est que quand on subit une anesthésie générale, on a des problèmes de mémoire. Moi, j'en avais subi 4. Juste avant. Et le début, j'ai pensé qu'il fallait tout mettre à la poubelle, parce que je me souvenais même pas du nom du sucre béguin. Mais en réalité, on a continué, et j'étais beaucoup plus content de ce que je racontais. Alors, quand j'ai été content, Kylian, je lui disais, « T'as vu, aujourd'hui, on a dépoté, c'était formidable !» Il me dit, « Ouais, c'était pas mal. » Je dis, « Avant, c'était mettre à la poubelle. » Il dit « Non, c'était pas mal ». Alors j'ai réalisé pourquoi j'avais un interlocuteur, c'est que étant un cyclotymique, le mardi, je trouvais que ce qu'on avait dit, ouah, c'était super, et le vendredi, je sortais en disant « Faut mettre tout ça à la poubelle ». Eh bien, je ne suis pas un solitaire. J'ai toujours travaillé mieux en groupe, que ça soit avec des dessinateurs, avec des metteurs en scène, avec n'importe qui. Donc, si je n'avais pas eu quelqu'un en face de moi, qui parfois était un punching ball, hein, faut être clair, qui parfois était le juge et moi l'assassin, faut être clair également, je crois que je n'aurais pas fait ça, voilà.
Et donc il y a aussi quelqu'un qui était là pour mettre un petit peu d'ordre, donner un côté jardin à la française, à vos souvenirs, à votre mémoire, parce que là, ça se précipite, comme on dit, c'est véritablement un grand rapide, tout est arrivé en même temps, les impressions, les couleurs, les noms, les réflexions, les personnages, les rendez-vous, il a sûrement été obligé de canaliser un peu tout ça, trop pour que ça ressemble quand même à un livre de Jean-Pierre Dionnet, mais un peu quand même.
Oui, en fait, en réalité, ce qui manque le plus, je suis pas John Waters, mais c'est les odeurs. Je pouvais pas faire un livre en odorama, parce que moi, quand je me souviens du passé, ça commence toujours par les odeurs. Après, ce sont généralement les sons lointains. Et après, c'est une image. Et de l'image vient ou pas des dialogues, des textes, des échanges. Mais l'image passe avant. C'est-à-dire que quand je parle de Moebius ou de Druillet, je les revois à un moment précis de leur vie avec le costume qu'ils avaient. Et ce qu'il dit, c'est un peu comme certains films que j'aime, n'est pas si important, parce que tout est dans l'image. Alors le problème, c'est d'arriver, et ça c'est le problème de Kylian, à ce que ces images deviennent autre chose que « je revois Druillet ». Oui, je revois Druillet. Alors c'est là que je suis forcé de décrire l'image, avec ses bagues, avec ses costumes invraisemblables, ou Moebius en Gary Cooper ou en Jimi Hendrix. Mais c'est vrai que je suis plus un visuel, et donc il a fallu essayer de trouver une équivalence au visuel. Voilà.
En bande dessinée, c'est ce qui primait également dans vos choix. Vous l'écrivez, oui. Le scénario était pas toujours secondaire, mais venait après la qualité esthétique d'une œuvre de bande dessinée. Oui. C'est vrai que les images sont ce qui compte le plus dans vos souvenirs. Alors, il y a un écueil dans les mémoires qui est évité. Souvent les auteurs veulent s'inscrire dans une histoire historique. Or, ce qui est frappant, c'est l'absence de le contexte historique. Il existe, mais il est sous-jacent. On n'a pas les noms des présidents de la République, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour vous, c'est l'homme en cristal, le personnage d'un Spoutnik numéro 45, une revue Artima que vous découvrez à 10 ou 11 ans. Donc, ce sont des mémoires sur des mondes imaginaires. C'est pour ça que vous avez peut-être fait le livre que vous aviez prévu de faire avant ces mémoires. Il est peut-être là déjà ce livre sur les... La machine à rêver. Vos mémoires sont des successions de machines à rêver, d'images, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, la musique. Les personnages que vous rencontrez, effectivement, on les voit visuellement, ils sont là, incarnés, Druillet avec ses bagues, tout un monde comme ça. qui finalement n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le monde réel, si tant est qu'il existe.
Le monde réel ne m'intéresse pas, c'est ce que nous déclare Jean-Pierre Dionnet.
Bah, absolument pas. J'ai fait très tôt un pas sur le côté parce que j'ai eu la chance d'avoir été malade jeune comme beaucoup, donc on lit beaucoup, et j'ai eu la chance d'être élevé en internat, donc de m'être rendu invisible jusqu'à en gros de la 9e à la terminale, et c'est là que j'ai décidé de faire un pas sur le côté parce que sinon je me serais retrouvé embringué soit chez les scouts, soit au cheval d'Arçon. Ah si, j'ai bien été dans la troupe théâtrale, mais le temps d'un Claudel. Mais
non, c'est pas non, si mal.
Voilà,
encore ça peut oui, durer. Claudel, ça peut durer longtemps.
Jouer le frère de Christophe Colomb. C'est la mère qu'il nous faut à nous autres Génois.
Ah bah très bien.
Quetzalcoatl se dresse devant moi. Non, en fait, ce pas sur le côté, je l'ai refait en sortant de l'université, parce qu'en sortant de l'université, c'était 68, et autour de moi, tout le monde voulait refaire le monde. Je me souviens d'Alain Pocard, qui a collaboré à Bétal, qui a écrit une vie apocryphe de Joseph Staline.
Attention.
Qui a provoqué Joseph Staline. Il y avait les trotskistes, il y avait les néo-spontex, il y avait les Mao et tout. Et tous avaient la solution du monde, mais c'était pas la même. Alors, à nouveau, ça m'a calmé, d'autant que cette révolution 68, il ne faut pas l'oublier, s'est arrêtée avec les vacances scolaires. Ce qui m'a prouvé quand même qu'une fois que sous les pavés, il n'y avait pas la plage, mais quand on allait à la plage et on laissait les pavés derrière, donc ça m'a mis en retrait de la politique. Et d'autre part, soyons clairs, je n'ai jamais aimé la politique puisque ça a toujours été des promesses pour demain matin. Or, je crois que seul après-demain compte.
Ah, vous dites jamais aimé la politique, alors... Indépendamment du fait que Napoléon Ier figure peut-être dans votre arbre généalogique.
Mais il y a un chapitre pas la politique, il voulait juste être empereur.
C'est clair. On n'en dira pas plus. Votre père a su, lui, durant toute sa vie, ce qu'était la politique, puisque c'était un militaire de la coloniale, qu'il a été giraudiste, qu'après, au moment de la décolonisation, il a peut-être eu des activités secrètes, un peu latérales, on le dira. Vous le décrivez à un moment habillé en arabe, qui descend d'un avion, avec le visage pensé au broc de noix, ce qui est assez plaisant. Donc il y a dans votre famille une tradition politique, vous avez été élevé chez les oratoriens, donc il y a quand même j'aime bien la manière dont vous contextualisez toute votre origine familiale et l'histoire de votre famille, puisque bizarrement, avec un scénario pareil, on peut attendre quelque chose de terrible, la rupture, le conflit, l'hostilité, et ben pas du tout. Au contraire, vos parents, non seulement vous poussent à lire de la bande dessinée, mais votre mère vous aide à construire des étagères pour ranger les comics, votre père, vous êtes resté en contact avec lui tout le temps, vous savez tout sur cette histoire familiale complexe. Donc, les oratoriens de Juilly, vous citez le père de Tourtier, qui est mort au début des années 2000 à 101 ans. Donc, il y a une volonté de montrer qu'il n'y a pas cette espèce de clivage, de contradiction un peu nullarde que l'on nous balance régulièrement et que malgré tout, ce monde qui est celui d'avant, eh bien, il a fourni métal hurlant.
Oui, ce monde d'avant, en fait, tolère le monde d'après. Je pense que autour de 68 justement, j'ai été un jeune con qui savait tout et que mon père, qui lui avait tout vécu, a laissé couler, m'a laissé raconter mes bêtises. D'ailleurs, soyons clairs, c'est peut-être de lui que vient mon apolitisme, parce qu'il disait « je suis un militaire, et un militaire qui fait de la politique, ce n'est plus un militaire ». Donc ça m'est peut-être resté. Il avait une vision un peu comme dans « Les sentiers de la gloire », avec ce que décident les autres et qui nous mène au combat, mais où nous ne sommes pas des décisionnaires, mais où nous devons nous taire, puisque notre devoir, c'est d'obéir. Alors, oui, en fait, j'ai eu des parents formidables.
T'en vas pas comme ça. Pas comme ça, en ignorant mon existence.
Jean-Pierre, commentaire, on l'entend.
Alors, ça, c'est une version que je ne connaissais pas de mon compositeur préféré de tous les temps, Burt Bacharach. C'est Don't Make Me Over. Converti, mais alors, Bacharach, c'est un. Alors, lui, c'est l'Atlantide. Parce que j'ai accumulé dans ma discothèque, j'ai pas fait un BC. parce que Bacharach, j'ai 120 disques. À la fois dans Great Jewish Composer et puis des versions totalement lamentables faites en Thaïlande. Et Bacharach, pour moi, c'est un des plus grands cinéastes du monde. C'est-à-dire que I Just Don't Know What To Do With Myself, la chanson qu'on retrouve dans Le mariage de mon meilleur ami, tout ça, ce sont de minuscules films de 3 minutes, mais on a le décor, les personnages et ce qui leur arrive. D'ailleurs, il a essayé de faire un roman un jour et il n'y est pas arrivé. Ce qui prouve une chose, c'est qu'on peut être très bon pour la nouvelle et pas pour le roman, très bon pour le court. Et Bacharach, pour moi, ce sont de petits films. 24 Hours from Tulsa, pour moi, c'est la plus belle chanson du monde. C'est-à-dire que c'est, il part pour Tulsa, ça s'appelle Pièce. Il écrit à sa chérie pourquoi il ne reviendra pas à la maison à cause de la fille qu'il a croisée à l'arrêt du bus, à 24 heures de Tulsa, à 24 heures de tes bras.
Comme ça, t'en vas pas comme ça, car je sais bien que tu m'aimeras toujours.
T'en vas pas comme ça, l'hommage de Mauvais Genre à Nancy Holloway qui vient de nous quitter, Antoine Guillot. Alors,
Christophe Beer a beau dire qu'il n'y a pas de contexte historique, et c'est vrai qu'on s'en fiche de qui était le président à ce moment-là, ce livre donne quand même chair à plusieurs moments de l'histoire de la bande dessinée, et en cela, c'est tout à fait passionnant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord celle de la connaissance érudite, tous ces gens qui lisaient, qui farfouillaient, et qui, à l'époque où il n'y avait pas d'histoire de la bande dessinée, pas de critiques, vont publier des opuscules avec des figures très importantes que vous faites revivre formidablement, de libraires comme Jean Boulet ou Robert Rockmartin, chez qui vous allez publier vos premiers textes. C'est le Futuropolis d'avant Futuropolis, d'avant Étienne Robial et Florence Sestac. Alors, vous appelez Jean-Pierre le dithyrambique à l'époque. Donc, les auditeurs de Mauvais Genre voient que l'enthousiasme de Jean-Pierre Dionnet ne date pas d'hier. Il y a les premiers temps au journal Pilote, où vous arrivez comme un jeune timide dans les réunions dites d'actualité que Goscinny avait lancé après mai 68, justement, et qui, dès sa première arrivée, dit « Oh, ben, moi, j'ai peut-être une idée. Alors, tiens, alors vous allez faire une BD avec Drouillet. Oh, ben, j'ai peut-être une autre idée. Ah, ben, vous allez faire une BD avec Solé. » Et vous êtes publié le 27 mai 1971, ça je pense que vous en souviendrez toujours, numéro historique pour vous de Pilote. Tardy vous décrit comme un fou de science-fiction et de cinéma américain, un gentil scénariste qui parle un peu trop vite et me fout la migraine. Donc là encore, les auditeurs de Mauvais Genre voient que ça ne date pas d'hier. Vous faites revivre tout ça, mais c'est très important parce que on comprend comment on arrive à ce moment que vous repoussez d'ailleurs dans le livre. Il y a un effet de suspense aussi parce qu'il a été beaucoup raconté, qui est la grande aventure de Métal Hurlant, sur laquelle finalement vous ne consacrez pas tant de pages que ça, et parce que ça a été raconté par Marmonnier et Poussin dans un livre, parce que Serge Clair a fait de vous un héros de bande dessinée dans le journal. Mais on voit que tout ça vient de c'est moins un air du temps que faut presque remonter à quand vous aviez 3 ans et que vous lisiez, vous découvriez le journal de Mickey avec votre père, et qu'à partir de là, votre façon hypermnésique d'emmagasiner des images, comme vous le disiez tout à l'heure, vous poursuit et vous amène forcément à un moment à mettre le feu à la bande dessinée et à créer le meilleur journal du monde.
Bien, Dionnet.
Oui, alors, je crois qu'effectivement, à un moment précis, j'allais dire pendant un quart de millième de seconde d'éternité, je crois qu'on a fait le meilleur journal du monde, pour les BD comme pour les textes. Je crois qu'on a eu une chance inouïe, parce qu'en gros, il y a Pilote. Après, arrive l'écho des savanes. Mais l'écho des savanes, ça fonctionne plus ou moins, ça va changer de formule. Quand Métal apparaît...
Auquel il faut préciser, vous collaborez. C'est-à-dire, c'est voilà, là que vous apprenez à diriger un journal.
Je collabore avec l'écho des savanes. Mandrika pense que je peux l'aider. Et quand on fait Métal, on envoie une bouteille à la mer et on va voir débarquer, dès le numéro 5, des hordes de dessinateurs qui ne veulent plus travailler ni à Spirou ni à Pilote à Paris-Chaland. mais qui veulent travailler dans ce nouveau journal qui est Métal. Donc, je pense que là, il y a un miracle qui n'est pas de mon fait. C'est qu'on serait arrivé 2 ans avant, on n'aurait pas pu remplir le journal. On serait arrivé 5 ans après, bah, peut-être que d'autres seraient passés entre-temps. Métal, ça sera mon Everest. Je vais faire d'autres choses intéressantes. Mais je me souviens un jour, je suis au Palace dans une soirée avinée avec un groupe de funk et tout, et je suis à côté d'Oliver Stone. Et il y avait un type qui produisait David Lynch à l'époque, qui s'appelle Pierre Edelman, qui présente Oliver Stone, qui n'a pas encore fait ses grands, grands films. Il dit, ouais, c'est une star de la télé. Alors Oliver Stone me regarde dans le genre, il en connaît, tu vois. Et puis je lui dis, moi je comprends le coup, j'ai fait le même coup qu'à Otomo, je dis oui mais j'ai fait Métal Hurlant. Et là Oliver Stone tourne vers moi, il me prend comme ça et dit, that's the thing man, you did it. Et je réalise, et c'est un peu triste, parce qu'on parlait de Gawa Rampo qui pensait qu'à 36 ans il avait fini sa carrière. Je réaliserai un jour que mon épiphanie, elle arrive à 28 ans, et elle s'arrête à 35 à peu près, que je vais faire d'autres choses totalement passionnantes, mais que plus jamais je ne serai tout en haut de l'Everest. Mais j'y suis arrivé une fois, c'est bien.
Pourquoi Oliver Stone réagit comme ça, et il y en a beaucoup d'autres qui certainement auraient eu la même réaction, c'est que se crée dans Métal Hurlant à ce moment-là une imagerie, puisqu'on parlait d'image, qui va infuser tout le cinéma de science-fiction, en particulier américain, et pas seulement. Et c'est très amusant dans le livre, comment vous racontez que bah, parfois vous avez fait des grands ratages, d'ailleurs que Mad Max aurait dû s'appeler Métal Hurlant, mais vous n'avez pas pris au sérieux le producteur quand il a voulu vous acheter le titre, et, que Ridley Scott vient se servir chez vous, vous racontez ce moment où il découvre dans vos bureaux le Necronomicon de Giger et qu'il va après piller tout ce que vous avez fait sans jamais créditer personne, et notamment la bande dessinée très importante de Dan O'Bannon et Moebius qui va créer tout l'univers de ce qu'on connaît maintenant de ce qu'est une ville du futur dans la science-fiction.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, alors c'est par à-coup, c'est-à-dire que Jeff Darrow passe par Paris, il fait du Moebius, c'est lui qui va mieux réussir. Il va mieux réussir parce que les frères Wachowski vont lui dire, tu vas nous dessiner un film, puis plusieurs films qu'on va appeler Matrix, et nous on arrivera à réaliser ce que tu as dessiné. C'est depuis un type à qui je vais bosser bientôt en bande dessinée, qui s'appelle Richard Bennett, qui m'envoie des bandes dessinées formidables. Et je dis, je veux travailler avec vous, Richard. Il est colombien, il habite en Amérique. Et puis, ça fait 15 ans qu'il reporte. Ça y est, on va le faire. Parce qu'à ce moment-là, il dit, désolé, mais je suis en train de dessiner le storyboard et tous les détails des décors de Fight Club. Et il a fait tous les Fincher jusqu'à Benjamin Button, et il a fait d'autres films. Donc, les enfants de métal, c'est incroyable. Alors, je suis un Français. L'histoire, elle est vieille. C'est Cocteau décalqué par Carpenter, mais on n'aime pas le cinéma fantastique en France. C'est Franju décalqué par John Woo avec Face Off, mais on n'aime pas le cinéma fantastique en France. C'est Logier qui récemment a fait Ghostland en Amérique parce que on n'aime pas le cinéma fantastique en France. Eh bien, la seule chose épouvantable, c'est que le monde de Métal Hurlant, le seul qui va s'en inspirer un peu en France, c'est Alain René avec quelques décors de Bilal. Le reste, ça sera des Japonais, des Américains. Et comme tous les fantastiqueurs, comme avant moi Langman qui écrit La Mouche, ou comme avant moi Robert Merle qui est adapté avec George Scott, c'est dur de faire du fantastique en France. Ce n'est pas impossible, mais chaque fois on dit que c'est un cas isolé. Or, nous sommes depuis Méliès des centaines d'isolés. Il faudrait reconnaître qu'en France, on est une patrie du fantastique, mais qui a un peu honte, comme si on parlait du cousin Quasimodo.
Ah ben, on a beaucoup de tendresse pour le cousin Quasimodo à mauvais genre. Alors, vous rendez hommage à vos maîtres dans Mémoire, Jean-Pierre. Alors, il y a les trois Jacques, il y a Jean Boulet d'une part, et puis il y a Jacques Sadoul, Jacques Guamard, et puis le troisième Jacques.
Et Jacques Bergier.
Donc,
grâce à lui, je découvre Howard.
Ce qui n'est pas un mince apport. Et on se rencontre très rapidement avec Claire Poinsignon, donc, qui s'occupe de l'émission. On est allé à la rencontre un peu des anciens documents autour de Jean-Pierre Dionnet. Donc, on a trouvé des émissions de radio, puis on a pour trouver des documents télévisés. On se rend compte très vite que quand on a besoin d'un ambassadeur de la bande dessinée, quand on a besoin d'un porte-parole du monde de la bande dessinée, du graphisme, de l'imaginaire, eh bien, on voit arriver cravate sobre, costume strict, lunettes sur le nez, Jean-Pierre Dionnet, qui explique aux journalistes forcément un peu troublés, voire un peu dépassés, ce qui est en train de se passer à la bande dessinée. Ah, ça n'est pas que pour enfants. Un exemple en est cette émission Les Visiteurs du Jour. Nous sommes le 27 janvier 1982 et vous êtes confrontés à une de nos consoeurs.
Dans Métal Hurlant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau quand vous avez fondé ce journal?
Quelque chose de bizarre, c'était que c'était pratiquement et uniquement des bandes dessinées de science-fiction, de rêves, de fantastiques, de fantasmes. Mmh. Assez violentes, assez bizarres, assez obsessionnelles. C'est-à-dire c'était réellement, véritablement, les fantasmes même des dessinateurs, réalisés avec le plus de soi maniaque possible. Pas le dessin d'humour, mais au contraire le dessin très soigné, très réaliste. Et en plus, il y avait une chose qui a beaucoup étonné à l'époque, c'est qu'il y avait pas ou peu de textes, pas ou peu de scénarios au sens classique du mot. C'était un peu des rêves qui se déroulaient. Et, bon, maintenant, il y a ça partout, si vous voulez. Mais au départ, c'était un petit peu une révolution dans la bande dessinée, en même temps qu'il y en avait une dans l'humour, avec des gens comme Fulglacial, Gottlieb, etc. C'est-à-dire qu'il y avait les deux en même temps.
Jean-Pierre Dionnet expliquant à Anne Sinclair ce qu'il en est en 1982 de la bande dessinée. Antoine Guillaume.
Il faut revenir sur le costume cravate, justement. Parce qu'il est très important. La première apparition d'un costume cravate, c'est pas vous qui le portez, c'est Goscinny. Et vous racontez comment vous avez très envie de plaire à Goscinny, comment vous êtes très impressionné. Vous racontez cette formidable première apparition de Gruber, qui est alors seulement commandant, c'est pas encore le major du garage hermétique, et qui est paru dans une petite histoire. Vous dites que c'est formidable avec Giraud. Donc à l'époque, on va proposer une histoire et Goscinny vous dit « Bon Giraud, on va peut-être arrêter les conneries, vous êtes censé attaquer un nouveau Blueberry. » Non. Et vous vous rendez compte qu'en devenant le patron de Métal Hurlant, vous allez vous gossiniser d'une certaine manière. Vous allez porter ce costume comme une armure de combat, parce que ça permet d'aller voir le banquier tout en faisant la fête et en faisant la sieste après une heure l'après-midi à Métal Hurlant, mais qu'il va vous arriver à peu près la même chose qu'à Goscinny sur la fin, c'est-à-dire que certains auteurs vont trouver que vous prenez trop vos distances avec le journal et puis que c'est pas possible de mélanger la ligne crade d'un Trambert Jeannot ou d'un Max avec de la bande dessinée beaucoup mieux dessinée, quoi.
Jean-Pierre.
Oui, alors oui, je vais vivre ce qu'a vécu Goscinny. Et dans le livre, d'ailleurs, il y a des oublis volontaires. C'est-à-dire, quand je parle de Marc Veline, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui était pour moi une erreur de casting comme un acteur en chef, je ne dis pas, c'est marrant, je me suis rendu compte après, qu'il part faire Zoulou. Et que les dessinateurs vont tous filer chez Bizot, auquel j'ai échappé une fois, et qu'ils vont tous revenir au bout d'un an. Mais quand ils reviennent, je suis comme Goscinny en 68. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je leur dis, revenez à la maison, les gars, mais ça sera une des raisons pour lesquelles un jour je vais partir. Il y aura trois signaux comme ça. Je crois que le premier, c'est quand on va me voler beaucoup de revues dans mon bureau. Ping. La deuxième, c'est ça. La troisième, ce seront mes associés espagnols et autres. Et le fait que les dessinateurs ne veulent pas me soutenir, je me mets à faire le 68-art dans le genre derrière moi, les dessinateurs. Et puis ils me disent, vous êtes patron. Nous, on est dessinateurs, ça ne nous regarde pas. Et je dis, les gars, je vais vous laisser dans votre truc. Et en fait, oui, je refais un parcours goscinien. Et là, je réalise que Goscinny, pour moi, c'était théorique. Jusque-là, Goscinny, je l'avais toujours vu en costume. Même si Hervé Kurtzman me parlait du Zazou qu'il avait vu à New York. Je réalise le vrai destin de Goscinny. C'est-à-dire que il se considérait comme un artiste et tout d'un coup, on l'a pris pour un patron. Alors, il m'arrive la même chose, presque exactement. Je pense que l'habit fait le moine, que quelque part les dessinateurs étaient plutôt cool, médjine, machin à l'époque, à part deux ou trois, à part Paul Gillon, dirais-je, toujours très élégant, et que moi je suis d'un côté du bureau avec le costume, et eux ils sont en jean de l'autre côté, et c'est Manœuvre qui a raison, en faisant le patron, parce que moi je veux le beurre et l'argent du beurre, je veux être le copain et le patron. J'y arriverai avec quelques êtres d'exception. Bon, mes maîtres, Gillon et autres, avec Charlie Schlingot, par exemple, avec qui j'aurai un rapport formidable. Mais il y a des dessinateurs dont je me suis rendu compte après coup que je les impressionnais. Mais pour de mauvaises raisons, j'aurais pu avoir le bureau à la Michel Greg avec nom écrit dessus. C'est-à-dire que quand je disais à un dessinateur « c'est pas mal », il disait « c'est pas bien alors ». J'ai dit « non, c'est pas mal parce que Moebius c'est très bien, toi c'est bien ». Le mec disait « oui, enfin j'essaierai de faire mieux ». ça y est, le trou s'est creusé.
Mais faut savoir dire non aussi à un édicat, par exemple, à lui dire bon, c'est pas bien chez nous, mais vous ferez un tabac chez Fluide Glacial. Et grâce à vous, il y a édicat chez Fluide Glacial, quand même.
Il y a aussi, évidemment, bien évidemment, la présence, l'omniprésence, même plutôt l'hyperprésence de Jérôme Bius et de Druillet. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit les choses, on voit la progression de votre rapport avec ces deux figures. D'abord des amis, des collaborateurs, des admirations. Et peu à peu, ça finit par devenir presque des forces. Des entités cosmiques. Enfin, on a l'impression que ce sont deux principes. Le monde est un combat permanent entre Giraud et Druillet.
Avec un Möbius assez taquin aussi, qui peut vous apporter une couverture de merde, juste pour voir si vous êtes capable de lui dire que c'est nul.
C'est plus que taquin. Hein. Ça, c'est le test et c'est très intéressant. De
mais
voir.
Möbius était un monstre. Mais un monstre, au bon sens du mot, un monstre, un minotaure. D'ailleurs, il était taureau, faut pas l'oublier. Druillet aussi était taureau. Ça tombe mal, deux taureaux en face d'un sagittaire. Normalement, on s'entend, mais plus ou moins. Et Möbius, c'était vraiment, je le dis dans le livre parce que je le pense, c'était un Mohamed Ali de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il voulait détruire ses concurrents. Il pouvait être un elfe d'une gentillesse absolue avec François Avril ou Loustal débutant, qui n'étaient pas ses concurrents. Par contre, si on rentrait sur son territoire comme Claude Auclair, alors là, c'était le napalm. Mais Giraud, mon dernier grand souvenir de Giraud, quand il est malade et qu'on continue à se voir et qu'on s'appelle quand on a vu 24 heures chrono en 24 heures réelles, qu'on doit bien ça à Jacques Boer, une dernière fois que je le vois, il me parle de Marlon Brando, parce que j'avais eu des nouvelles de Marlon qui allait pas bien, mais qui voulait à nouveau relancer le projet dont je raconte dans le livre.
Oui,
et il me dit, tu sais, j'aurais voulu rencontrer Brando. D'ailleurs, Brando, je m'en suis inspiré. Je saurais plus tard que Druillet, Lanson ressemblait à Brando, preuve qu'il dessinait pas bien à l'époque. Et Möbius me dit, non, en fait, c'est pas Brando que je veux rencontrer. C'est Coupe, c'est Gary Cooper. Et puis là, il me regarde dans les yeux et il dit, mais ça aurait pas été des amis de 40 ans comme nous. Et les amis de 40 ans, dans une vie, ben on n'en a pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai failli parler de tout le monde, dans tous les sens, et que je me suis dit, au centre, à la périphérie, et toujours, ben on est le triangle. Möbius, Druillet et moi. Et ce triangle, il s'est poursuivi, il a commencé, il a duré jusqu'à la... au décès de Möbius, et il continue de durer quelque part, et avec Druillet, bah Druillet, je l'avais ce matin, qui me dit, tu vas aller dédicacer dans mes librairies préférées, et moi je te présenterai. Mais je veux pas qu'on dédicace mes bouquins, hein. Faut pas tout mélanger. C'est ta dédicace. Ça arrive une fois dans la vie.
I wanna get up and do my thing.
Yeah.
I wanna get into it.
Yeah.
Lega. Lega.
What?
Lega.
What?
Lega.
What?
Lega.
What?
Lega.
What?
Like a sex machine.
Yeah. Yeah.
Like a sex machine.
Yeah.
Moving.
Yeah.
Alors, je vous dis quand même ce que c'est.
C'est James Brown. Dont on oublie vraiment qu'au départ, il avait une voix de rossignol un peu comme Sinatra. Ses premiers disques, si on les réécoute, c'est un phrasé presque à la Aaron Neville, qu'il a perdu cette voix et qui s'est inventé cette voix incroyable. Donc c'est la même histoire que Sinatra. Les types ont un handicap et ils le franchissent. Et James Brown, c'est le type qui un jour dans un couloir me dit « Est-ce que James Brown doit aller en Afrique du Sud ?» Lui, il dit « Je vais manger après. » Mais là, c'est James Brown. Je dis « Il peut pas aller en Afrique du Sud, James Brown, parce qu'il faudrait une salle moitié noire et moitié blanc. » Il dit « Donc c'est impossible, donc James Brown n'ira pas. »
Get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
sack machine,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
sack machine,
get on up,
I said beat, got the death, give me beat.
Alors, Christophe Beer nous est venu, on écoute Sex Machine, James Brown, porteur de deux raretés bénéphiliques.
Oui, c'est dans l'aventure des Humanoïdes Associés, qui est le groupe créé pour Metal Hurlant et qui nous a gratifié d'énormément d'albums de bandes dessinées. Il y a eu un bol d'air financier d'ailleurs, puisque c'est un titre qui a énormément fonctionné, qui a été vendu à une vingtaine de mille d'exemplaires. Les aventures de Gwendoline, du maître de la BDSM John Wiley. Et ce succès éditorial vous a poussé à sortir d'autres albums. La Baronne Steele du dessinateur suisse Jim, le premier album de Slocombe signé simplement Romain prisonnière de l'armée rouge, qui est une parodie d'anticommunisme primaire. Et c'est dans ces aventures de bande dessinée sadomaso, la seule fois où la censure s'éveille. Il y a deux albums qui subissent une triple interdiction, ce qui est d'ailleurs très dangereux. La même année, en 78, triple interdiction pour Slocombe et pour un ouvrage d'Eneg, puisque à une troisième triple interdiction vous soumettez au dépôt préalable. Et il y a eu aussi la revue féminine Anana, qui a connu 9 numéros et qui, pour une interdiction aux mineurs, a dû cesser sa parution.
Jean-Pierre. Aux mineurs, à l'affichage et à la publicité.
Aux mineurs seulement.
Metal a eu aux mineurs. Anana a eu la triple interdiction parce qu'il y avait eu deux avertissements. Et j'ai regardé dans le Joubert.
Bon. Ben oui, mais Joubert, mais juste une interdiction, Jean-Pierre. Mais c'était déjà assez grave.
Toujours est-il que j'avais été averti.
Vous a empêché de continuer le magazine.
Oui, parce qu'il ne marchait pas. Et que le numéro sur les transsexuels et les lesbiennes avait été un avertissement. Le numéro précédent avait eu un avertissement. Et moi, j'en avais marre avec Choron, qui amenait toujours une bouteille de vin, de me retrouver dans le couloir de la 14e chambre correctionnelle pour attentat à la pudeur par voie de presse. À un moment, ça fatigue. C'est un avantage, c'est qu'on peut passer par la Sainte-Chapelle sans coupe-fil, puisqu'on est prévenu, sans faire la queue. Mais enfin, avec Choron, là-dessus, on s'entendait bien, et Choron me disait, écoute, lui, il connaissait ça mieux que moi, il dit, si c'est interdit, t'essayes même pas de faire lever, tu te casses et t'appelles le journal autrement. Il dit, parce que là, c'est mort, sinon tu vas passer ta vie ici.
Alors le temps nous file entre les doigts, on va avec Philippe et Fausto conclure sur le cinéma et la télévision.
Ben, oui, parce que
autre aspect déterminant.
Ben, mais c'est lié au monde imaginaire. Et ce qui me semble intéressant dans la vie de Jean-Pierre Dionnet, tel qu'il la raconte, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière. C'est-à-dire que on suit ses goûts, on suit ses appétences, et même si on est déconnecté du réel, on a quand même un sens du timing. Et c'est par exemple ce moment des années 80 où vous le racontez comme ça dans le livre. Vous êtes en vacances aux États-Unis avec Eddie Mitchell et Gérard Jourdui et vous vous dites, bah, après tout, moi qui suis fou de cinéma de genre et notamment de cinéma de genre européen, on devrait amener ça à la télé. Alors évidemment, Eddie Mitchell, qui à ce moment-là fait la dernière séance, qui n'aime que John Ford et tout, le western spaghetti, ça lui dit rien du tout, et bof, bof, bof. Mais du coup, vous rentrez à Paris, et vous allez voir Pierre Lescure. Pierre Lescure qui revient dans le livre énormément. C'est un des personnages, il n'y a pas de chapitre Pierre Lescure, parce qu'il revient à tous les moments.
C'est l'inventeur du glandage, qui consiste à circuler dans la vie en ayant toutes les antennes ouvertes pour récupérer les choses curieuses
et
intéressantes.
Ouais, et ben voilà, cette invention-là va servir, parce que du coup, c'est comme ça que vous allez lancer cette institution de la télévision et du cinéma de genre, des mauvais genres, qui est cinéma de quartier, et puis après qui sera quartier interdit. Hein. Et avec cette idée qui vous a enrichi, mais vous racontez ça, c'est assez savoureux, tous les exemples de rencontres avec les banquiers que vous avez dans votre vie, parce que ça marche jamais, vous n'êtes pas un homme d'argent. Mais là, en fait, c'est entre René Bonnel et Pierre Lescure qui vous ont donné au lieu de vous salarier pour programmer cette émission qui présente donc des cinémas de genre européens, des films de genre européens, ils vous disent, tu crées ta boîte, t'achètes les films et Canal te les rachète. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable. Et en tout cas, pour toute une génération de cinéphiles et de spectateurs, ça a été la découverte ou la redécouverte à la télévision des Hammer, du Western Spaghetti, de tout le cinéma italien fantastique, Argento, Caiano, Bava, etc.
Fausto ?
Oui, puis il y a quelque chose d'une cohérence implacable dans le livre, c'est que pour quelqu'un qui cherche à fuir constamment le réel, j'ai l'impression que vous avez trouvé quelque chose de très concret dans la manière de le fuir, autrement que par des récits imaginaires, c'est vos voyages en Asie, où là, finalement, vous avez découvert un univers qui, aux yeux d'un occidental, paraît tout à fait irréel. Et il y a de très belles pages, notamment dans les passages Mes villes magiques, où vous évoquez Los Angeles, New York et Tokyo. Et pour lier ça au cinéma...
Et Hong Kong.
Alors Hong Kong, oui, Hong Kong, c'est dans un chapitre qui s'appelle Hong Kong Foufou, où vous parlez de votre voyage à Bali et de la manière ensuite, pour lier ça au cinéma, dont vous allez rencontrer Kirk Wong, Terence Chang, le producteur de John Woo, comment vous allez essayer de monter un film d'action avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par John Woo. Mais malheureusement, Jean-Claude Van Damme va vous griller la politesse. Et ce que j'ai trouvé très très saisissant, c'est le miroir en fait que ça donne au lecteur. C'est-à-dire, un peu comme tu disais Philippe, instantanément je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que m'a fait découvrir Jean-Pierre? Et là, j'ai pensé à, tiens, L'homme qui rit de Sergio Corbucci qui était passé dans Cinéma de quartier, Sonatine de Takashi Kitano. Tiens, j'ai vu Porco Rosso de Miyazaki en salle. Qui l'a sorti,
salle,
en fait?
En salle, voilà.
Et c'est vrai qu'à une époque où l'Asie, le Japon par exemple particulièrement, est considéré comme le pays du cool, je me suis dit, tiens, il y avait un gaijin, un étranger, dans les années 90, qui allait du côté de Shinjuku, qui allait acheter des cassettes vidéo, des valises Rimowa aussi, de très bonnes valises allemandes que vous avez pour pas cher apparemment.
Au marché des voleurs.
Et ramener ça, et puis nous étions les premiers spectateurs de ça, et rien que pour toutes ces expériences, je tenais à vous dire merci.
Jean-Pierre.
Moi j'ai été très ému, je n'y vais plus parce que j'ai plus de raison d'y aller, je peux pas aller en touriste. J'ai été très ému par Parasite, quand il est la Palme d'Or, parce que mes filles m'ont dit « ça a l'air bien », j'ai dit « oui ». Vous avez regardé son premier film que j'ai distribué, Barking Dog, Neverbite.
On a le DVD à la maison.
Tout à fait.
Voilà, et je me dis, ça a mis 25 ans. Mais je me suis dit, et je pensais à Bo Jong-ho, je me suis dit, on a gagné. C'est marrant, je ne suis plus lié à lui, je ne le vois plus, je l'ai croisé au Mont Snowpiercer. Bon. Mais on a gagné, voilà. Ça a mis 25 ans. Mais ma découverte de l'Asie, c'est un cadeau, parce que j'ai découvert une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Et je pense que je l'ai bien rendu et que, de toute manière, maintenant, il faut non seulement compter avec l'Asie, mais je pense que l'Asie et avec la Russie sont les nouveaux Eldorado du cinéma.
Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Dionnet, pour tout ce que vous nous avez apporté depuis toutes ces années, notamment à Mauvais Genre, ça c'est mon remerciement personnel, et puis merci pour tout ce que vous allez encore nous apporter comme critique, comme créateur et comme enthousiaste fiefé. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi cette émission. À toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Eric Boisset, Claire Poinsignon, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Christophe Bi, Antoine Guillot, Fausto Fazulo et François Geliet, vous remercie d'avoir été à l'écoute de Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. On sera cette fois en compagnie de Frédéric Tan et Gaspard Noé pour souffler les 25 bougies de l'étrange festival où il y a une carte blanche à Jean-Pierre Dionnet. Rassurez-vous, et d'ici là, on se quitte, mais avec Burt Bacharach, monsieur Dionnet.
P.S. Darling, Burt Bacharach, Al David, chanté par Jane Pinday. On est à 24 heures de Tulsa.
Something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. She took me to the cafe. I asked her if she would stay. She said, okay. Only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. The jukebox started to play, and nighttime turned into day. As we were dancing closely, all of a sudden I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her. Told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never, never. again.